I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Swear. Eh bien, nous sommes repartis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Je regarde, oui, tout fonctionne à merveille. Ce week-end, respect de Pauly Domso. Ce week-end, Derek Brunson versus Darren Till. Pauly Domso versus Rust. Ça y est, on y est, l'affrontement final. Les gens sont déchaînés dans le chat, calmez-vous. Donc là, c'est finalement l'UFC London qui est délocalisé à Vegas pour raison de coronavirus. Il y a un main event qui s'annonce particulièrement intéressant. Les débuts de quelqu'un qui est particulièrement attendu aussi, on a eu énormément de demandes, c'est Paddy Pimblett qui fait ses débuts à l'UFC. Alors messieurs, est-ce qu'on commence par le main event ou est-ce qu'on y va crescendo, comme d'habitude? Vous choisissez.
Crescendo, Pauly.
Ouais, on va pas, une fois n'est pas coutume, quoi. On va essayer de suivre la tradition. Non, juste un petit astérix que là, en début de, à mes risques et périls, en début de d'intervention, c'est juste, ça fait chier quand même ce décalage là à cause du Pauly Domso. À cause du coronavirus. C'est qu'on a perdu quand même des beaux combats à cause des visas, quoi. Moi, franchement, Thomas Spinal, Sergei Pavlovich, je l'attendais ce combat. Là, ça fait chier. Bon, j'ai rien contre Sergei Spivak, mais c'est un peu.
C'est pas le même challenge.
Ça fait chier, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est juste, je voulais juste dire ça, et puis vas-y, on peut commencer.
Absolument.
Eh bien, formidable. Allons-y. Est-ce qu'on commencerait pas par Charles Jourdain contre Julian Herrera?
Julian Herrera. Bah, chaud.
Bah, allez, bah, Charles Jourdain qu'on apprécie particulièrement, qu'on a déjà interviewé. Canadien, québécois, cocorico, Pauly Domso, c'est parti.
Bah non, mais c'est clairement pour Charles Jourdain qu'on va regarder ce combat. Il devait faire face à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Pareil, il y a eu des remplacements. Alors je me souviens plus. En plus, il devait combattre quelqu'un d'assez intéressant qui a été remplacé du coup par Julian Herrera. Qui c'est qui devait affronter Charles Jourdain?
Alors je suis en train de faire mes petites recherches. Charles Jourdain devait. Ah mais oui, Leron Murphy.
Et c'est Leron Murphy. Mais oui.
Putain. Voilà, c'est ça. C'était ça que j'avais en tête. J'aime beaucoup Leron Murphy en plus.
On l'aime tous.
Murphy. Et il me fait kiffer. Je le kiffe. J'ai bien aimé son combat contre Zubara Tukugov. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il était vraiment propre. Donc c'est dommage qu'on le voit pas. Après, c'est cool de se préserver des prospects. Et en revanche, autant j'adore Leron Murphy, autant Julian Herrera.
T'adores qui ça?
Leron Murphy, autant Julian.
Ah non, ok, merde, je veux que tu refasses le call-out à la Bruce Buffer.
Non, c'est plus Leroy Jenkins pour ceux qui ont joué à World of Warcraft. Et bref, et donc, non, c'est moi, Julian Herrera, il en est à son troisième run à l'UFC. Enfin, comment vous dire, et pour moi, il le. Aussi excitant que la pub Poltron et Sofa avant les vidéos YouTube. C'est comme ça.
Enfin,
j'ai rien contre lui, c'est malheureux, c'est vraiment un journeyman, il est revenu plusieurs fois et tout, mais la façon dont il a de combattre, c'est assez insupportable en fait. Enfin, c'est pas très agréable, il est bon, hein, attention, hein, faut pas mal interpréter ce que je suis en train de dire, c'est juste que il est pas très agréable à regarder combattre, et je pense que là, clairement, c'est plus un peu, on l'a fait venir parce qu'il fallait trouver un remplaçant et parce qu'il fallait faire un peu briller aussi Charles Jourdain. Donc, après, on n'est pas à l'abri d'un upset parce que autant il est chiant, mais il est aussi tricky à combattre, il est long, longiligne et il a beaucoup d'allonge et il est grand pour la catégorie, et il a tendance, tu sais, un peu à tout le temps céder le terrain, à gagner un peu au point, mais pas de la bonne manière, tu vois, c'est pas comme ce que nous a fait Giga Chikadze là, tu sais, où un coup à droite, un coup à gauche, puis il te contre à ce moment-là, c'est pas propre comme ça. Il y a des moments où carrément il trottine dans la cage et tout, enfin
frustrant.
C'est un peu, ouais. un peu frustrant, un peu pénible à regarder. Et bon, bon, pour ne rien vous cacher, hein, je vais être en transparence là encore une fois aussi. Je lui en veux personnellement d'avoir déraillé Mehdi Bagdad pendant la saison du Teuf. C'était le Teuf avec Conor McGregor et franchement, c'était les boules parce que Mehdi Bagdad avait fait une des meilleures intimidations qui soit en face-to-face. Et pour finir par un des combats les plus chiants de cette saison-là du Teuf. Donc c'était vraiment pas cool. Donc voilà pourquoi j'ai un peu la dent dure contre Julian et Rosa.
Bien.
Ah oui, et puis c'est oui, vrai c'est... que juste c'est simplement pour Lyron Murphy, c'est vrai que ça fait chier parce que lui aussi était un prospect, un vrai gros prospect. Et le fait qu'on ne le verra pas, c'est vrai que ça. Voilà, c'est frustrant aussi, ça fait chier. Bon, il reviendra vite. Mais voilà, petit pincement, quoi.
Petit pincement au cœur complètement, cher Rust. On avance donc avec Jack Shore contre Shaolinian en short notice, donc Jack Shore 14-0. Pour Ilomso, est-ce qu'on peut vraiment miser justement notre maison, celle de la voisine, celle de la sœur de la voisine, sur Jack Shore?
Et là, pareil, encore une fois, un peu de petite déception parce que Jack Shore devait affronter quelqu'un d'un peu meilleur aussi. J'ai oublié.
Oui, qui a été cuté de l'UFC dans la foulée de sa blessure.
Ah ouais, carrément oui. Cuté de l'UFC. D'accord,
ouais,
okay.
Complètement.
Donc, c'est génial. Bah là, dans ce combat, clairement, là, oui, je pense qu'on peut. Enfin, je dirais pas. Moi, personnellement, je miserais pas ma baraque, tu vois, parce que je suis quelqu'un de plutôt prudent.
Donc à la base, on devait avoir, pardon, Jack Shore contre Saïd Nurmagomedov, qui a été remplacé par Zviad Lachisvili, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est Saïd Nurmagomedov que j'avais en.
Bien sûr.
Dont je me souvenais. Et là, ça aurait été un rude accueil quand même. Hein, je vous cache pas quand même pour Jack Shore, mais ça aurait été très intéressant. Là, je pense quand même, il est confortable là sur le match-up qu'ils lui ont mis. Là, il est quand même en favori.
À l'aise.
Ouais, bah juste attention à pas se faire surprendre parce que c'est vraiment la classique où du coup il est censé affronter quelqu'un quand même d'un certain profil au niveau du prospect qu'on attend, la personne de Saïd Nurmagomedov. Par deux fois, il change d'adversaire. Enfin, c'est vrai que là, du coup, il est presque en mode, il a plus grand chose à gagner et il prend quand même un petit risque. Il le fait parce que bah c'est son premier combat, il faut qu'il combatte. Mais enfin, c'est toujours le traquenard, ce genre de combat. Tu prends un short notice, le mec se blesse, donc un autre short notice. Tu dis oui, parce que tu veux combattre à l'UFC, tu veux y aller. Mais ça pue toujours un peu ces situations, quoi.
Always, ouais. It's stinky out there.
100% d'accord avec Rust. Moi, j'ai tendance un peu à sous-estimer ce genre de détails, mais c'est vrai que pour la préparation mentale d'un combat, ça peut vraiment être extrêmement piégeux, ce genre de fantaisie, hein, ça c'est clair.
On est d'accord. On avance avec, en ouverture de main card, Paddy Pimblett qui fait donc ses débuts tant attendus à l'UFC, superstar du Cage Warriors, qui débute face à un adversaire que vous connaissez si vous suivez les Frenchies, Luigi Vendramini, qui s'est récemment incliné face à Fares Ziab. Il a eu un dernier round avec un petit peu de succès, et là, selon toute vraisemblance, hein, c'est quand même un combat qui est fait pour faire briller Paddy Pimblett.
Mais ça va être chaud, hein. Ça va être chaud quand même.
Ouais, parce que Luigi Vendramini, c'est pour le coup là, c'est un peu compliqué comme accueil. Là, ça me fait penser un peu Will Brooks quand il était venu à l'UFC, on lui avait filé Alex Oliveira,
qui est pas
facile en fait comme combat. C'est pas le meilleur, mais c'est
pas un cadeau. Ouais.
Et c'est pas un cadeau. Et pareil, Luigi Vendramini, il est dangereux, quoi. Il met des KO. Il est agressif et il lâche pas l'affaire contre Fares Ziab, il était je pense outclassé sur les deux premiers rounds. Vraiment, il y avait un différentiel technique et Fares Ziab était bien dans son groove, mais sur de mémoire, hein, parce que je l'ai pas revu depuis, mais sur le troisième round c'était chaud, hein. Moi je me souviens, là tu dis qu'il avait un bon succès, moi je me souviens que c'était quand même tendu sur le troisième round.
Oui, c'est ça, sur le troisième round c'était très chaud, mais les deux premiers il gérait tranquillement.
Ah oui, mais bon, du coup c'est un adversaire qu'on peut pas sous-estimer, clairement pas. Et bon, après, Paddy Pimblett est très bon, mais c'est juste pour dire que en combat d'accueil, bah c'est la classique UFC, quoi. Ils te font pas de cadeau. Quand t'as un nom à l'extérieur et que t'arrives, c'est extrêmement rare qu'ils te fassent un cadeau comme ça. C'est généralement, c'est te mettre au pas, quoi. Ils te disent bah tu penses que t'es au niveau, mais bon, quand même. On se souvient de Prosalka qui a eu Volkanos Demir en combat d'accueil.
Ouais. Enfin, c'est, ou Junior c'est de Santos ça. Qui prend Verdum, quoi. Ouais.
Ben voilà, exactement. Donc voilà, méfions-nous pour Paddy Pimblett. Après, je pense qu'il est quand même favori sur le papier. Mais c'est typiquement le genre de combat qui peut vraiment, tu sais, ça peut être un coup de réalité, ça, tu vois. Parce que c'est vrai que Paddy Pimblett, les adversaires auxquels il fait face, c'est plus souvent des adversaires de niveau régionaux. Alors, de ce qui se fait de mieux dans le niveau local, quoi. Mais, enfin, européen, on va dire. pas régionaux, mais européens. Mais là, pour le coup, on arrive là à un stade où là, tu affrontes des mecs qui sont au niveau mondial, quoi. Et Vendramini, bah, il a des victoires à l'UFC. Il a fait un beau combat contre Farisiam. C'est pas facile, c'est pas facile.
Ouais, non, c'est sûr. Et bah, d'ailleurs, Paddy Pimblett, il me semble qu'il a battu Charles et Rosa. Oui, je pense, je confonds avec Charles Rosa, mais Julian et Rosa au Cage Warriors, il me semble. Mais et c'est vrai que Paddy Pimblett, c'est vraiment
Complètement
intéressant
host,
parce que
complètement host.
et sur ouais et sur Synchrone d'ailleurs, si je ne m'abuse.
Host est une
Ouais.
légende.
Et c'est pour ça que ben c'est ça qui est cool avec Paddy Pimblett, c'est qu'il arrive quand même avec vraiment des trucs intéressants. Bah déjà premièrement, au-delà du fait qu'il a fait des 5 rounds, il a l'habitude et il a affronté des noms quoi. Il a affronté Soren Back aussi. Et c'est bon, il a perdu en revanche, mais c'était il a donc affronté Soren Back. Et en fait c'est mais parce qu'il a affronté il a gagné contre des noms aussi au Cage Warriors. Enfin c'est vraiment intéressant. Et surtout il est très spectaculaire. Paddy Pimblett en fait. Au niveau du style, alors ils n'ont pas du tout la même manière d'opérer, mais en fait, dans la généralité, il me fait un peu penser à Bryce Mitchell, en fait, dans le sens, c'est un gars, son gros point fort, c'est le sol. Donc, en fait, ce qu'il va essayer de faire à tout prix, c'est t'amener au sol pour t'y terminer. C'est des gars qui ont des personnalités ultra hautes en couleur, mais vraiment, enfin, c'est Paddy Pimblett, l'UFC ne s'y trompe pas, ils sont déjà en train de faire des trucs avec BT Sports. Le mec, il a pignon sur rue pour tout ce qui est les interventions, comment dire, enfin médiatiques, etc. Parce que l'UFC le sait, c'est un mec, il vient de Liverpool, un peu comme Darren Till, un peu comme Molly McCann, etc. C'est des gens qui sont, ils ont la vanne facile, ils ont la répartie facile, ils sont vraiment hauts en couleur, etc. En plus, il a un look bien à lui. Enfin, c'est vraiment, il n'est pas surnommé le Beatles pour rien. Enfin, c'est pas son surnom officiel, mais tout le monde l'appelle un peu comme ça. Et donc, c'est un gars qui a cette grosse personnalité, très gros sol. Et en fait, debout, il est un peu chelou parce que, un peu comme Bryce Mitchell, en fait, à première vue, je sais pas, il donne un peu l'impression d'être de pas très bon. Mais en fait, c'est un peu comme des gars comme ouais, soit Bryce Mitchell ou même Tim Elliott. Je me souviens en flyweight, c'est des gars, ils sont tellement étranges dans le timing qu'ils ont et dans la manière qu'ils ont de striker qu'en fait, régulièrement, ils surprennent les mecs. En fait, régulièrement, ils les touchent bien. Tu dis, il fait un vieux middle pété, mais en fait, enfin, sauf que c'est le moment qui est bizarre où il le met, sauf que c'est en interception, enfin, c'est très bizarre, mais ça semble à peu près marcher, en fait. Donc, je sais pas exactement ce que donnera Paddy Pimblett. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas forcément d'espoir qu'il ira très loin, mais en tout cas, ça va devenir, je pense, quelqu'un de vrai. Ouh là là, dans le chat, je suis sûr qu'il se passe des saletés. Mais en
À
tout cas, voilà, tout
propos
ça
de...
pour dire,
Ah, je me
Oui?
permets de te couper. Oh, dans le chat. À propos de Paddy Pimblett. Il a une tête à se faire racketter gare du Nord, mais il a les compétences pour fumer n'importe qui.
Ouais, c'est un peu long, mais ça pourrait être son surnom aussi.
Ça me rappelle la vidéo du mec qui se bagarre Gare du Nord. Je pense que tu te souviens de cette vidéo, Rust. Ouais, c'est pas grave, on en reparlera. C'est pas
Oui,
grave.
oui, oui.
C'est plus un private
Mais
joke, ça va être.
c'est vrai que oui, voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas s'il ira loin à l'UFC, mais en tout cas, je pense qu'il ira médiatiquement, il sera mis en avant, il va lui-même se mettre en avant, parce que c'est aussi, ça fait partie du jeu, qu'il a les compétences pour vraiment faire des combats spectaculaires et en gagner. Donc, honnêtement, j'ai juste envie de le voir pour le combattant qu'il est, et même pas forcément nécessairement pour le voir aller le plus loin possible, mais juste parce qu'il est intéressant, tant au niveau personnalité qu'au niveau compétences martiales, quoi.
Ben voilà, si ça n'arrive.
C'est
Oui.
solide, ça.
Ben oui, moi
C'est solide.
complètement. Là, vous êtes convaincu de toute façon. Ensuite, on avance avec deux personnalités assez intéressantes, mais sur des dynamiques différentes, dont d'un côté Modestas Pukauskas, c'est light heavyweight face à Khalil Rountree. Khalil Rountree, c'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez, mais c'est vrai qu'il a une carrière un peu en dents de scie, en tout cas ces dernières années.
Is Bangkok ready? N'est-ce pas poli comme ça?
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est dommage. Khalil Rountree, c'est un mec assez intéressant. J'aime bien. Il y a eu des progressions dans son jeu. C'était plutôt un striker brawler initialement avec un sacré, enfin, avec du punch. Et puis il y a eu on rigole avec Bangkok Ready, mais c'est vrai qu'il a eu ce moment où il s'est redécouvert un intérêt pour le Muay Thai. Il est parti en Thaïlande, il a vraiment fait le truc. Et c'était dans son combat contre mince Anders, Eric
Anders,
Anders.
oui,
Ouais,
j'avais un autre
vraiment,
Anders, mais
c'était vraiment visible. Il y avait eu un gros travail en Muay Thai. On sentait. C'était en fait après sa défaite contre, il me semble, contre Johnny Walker, où il avait
ouais, c'est
justement
ça, je crois.
cherché à améliorer son Muay Thai parce qu'il s'était fait surprendre en clinch et tout. Donc il y a eu un progrès. Et c'est vrai qu'il progresse et il a accroché des scalps qui sont intéressants. Il a battu. Gokansaki par KO. Enfin, donc c'est quelqu'un, on s'ennuie jamais en fait en le regardant combattre Kelly Rountree. Le problème, je pense que malgré tout, c'est toutes ces progressions et tout, il y a, enfin, tu vois, je pense qu'il atteint très rapidement son plafond de verre en fait, malheureusement, parce que il y a des choix en fait pendant les combats qui sont peut-être pas tout le temps judicieux. Et il y a aussi une constance dans la concentration. En fait, c'est là, c'est bizarre parce que ce que je vais dire, c'est un peu immatériel. C'est pas un truc de tangible. Je peux pas dire à tel moment il baisse la main alors qu'il devrait pas la baisser. À tel moment il fait zig au lieu de faire zag, ou à tel moment il va avoir un déplacement qui va le mettre en danger par rapport à son adversaire. C'est pas tellement ça. C'est juste que on a l'impression que parfois Kelly Rountree, il est dans l'intensité. Il va observer quelque chose. Il va tout de suite saisir l'opportunité. Je pense notamment à son contre Gokansaki, où il a tout de suite repéré un pattern chez Gokansaki. Et il faut le faire quand même, de repérer un pattern chez un champion, une légende de kickboxing en striking en plus. Donc, c'était vraiment intelligent de sa part. Et il y a des moments où il est carrément absent, il n'y a pas de garde, et il se fait surprendre, il se fait bousculer. Je pense notamment à son KO contre Johnny Walker, où c'était évident, quoi. Il est en clinch. Il se défend même pas, il se fait surprendre. Ouais. C'est très bizarre, on dirait qu'il laisse en fait, tu vois, il laisse un trou dans son combat, dans son attention en fait, plus que ça. Donc ça, je pense que c'est un problème de concentration et d'intensité en fait dans le combat. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens, ils sont tout le temps focus, tout le temps concentrés, d'autres qui ne le sont pas tout le temps, malheureusement. Et c'est peut-être une des choses qui explique que Khalid Rountree, parmi tous les autres facteurs, parce qu'il y en a énormément d'autres, hein, sûrement, qu'à mon avis, au plus haut niveau, c'est difficile pour lui, c'est compliqué. Il peut toujours gagner un combat, mais il va en gagner un, il va en perdre deux. Enfin, c'est un peu comme ça. Et donc là, pour le coup, bon, là, ils l'ont mis contre un adversaire qui, à mon sens, est à son niveau, qui est un peu pareil dans le même genre, moins connu, malheureusement. Et bon, j'ai plus l'impression que c'est pour le faire briller lui, parce que clairement, c'est mieux pour l'UFC d'avoir un mec comme Khalid Rountree qui, bon, même s'il perd, même s'il a un bilan négatif, bah, tu vas pas te faire chier en regardant ses combats. Il est là et do or die, tu vois, il meurt ou il tue. Et ça, c'est intéressant. En plus, il a une personnalité extrêmement sympathique, donc je pense qu'ils vont le garder. De toute façon, s'ils le gardent pas, enfin, je trouverais ça scandaleux qu'ils gardent un mec comme Sam Alvey, qui est genre à 8 défaites d'affilée, qui est pas très sympathique en plus de ça, et qui vire Khalid Rountree, alors que ils ont besoin dans cette catégorie de mecs comme Khalid Rountree, tu vois. Et donc voilà. Donc je pense que bon, là, clairement, c'est un combat un peu pour qui gagne contre
deux défaites Modestas consécutives de chaque côté.
C'est ça. Et je te dis, ils en sont un peu au même point. C'est un peu le même genre. Ils ont pas le même style du tout. Ils ont pas la même personnalité du tout. Mais je te parle en tant que type de combattant et en tant que prétention qu'ils peuvent avoir sur la catégorie. Ces gens-là, à mon avis, n'iront jamais dans le top 5. N'iront peut-être même pas dans le top 10, peut-être maximum. Mais je pense que c'est leur horizon indépassable. Vraiment, je serais très surpris. Et je serais content que Khalid Rountree me surprenne, hein, d'une certaine manière, parce que je l'apprécie comme combattant. Mais je serais très surpris que ça aille au-delà de ça. Et après, en revanche, ce sont des gens qui sont agréables à regarder combattre. Donc, moi, je pense que voilà, c'est un combat plus pour faire briller Khalid Rountree. J'ai l'impression que le striking de Khalid Rountree est quand même plus aiguisé que celui de Modestas. Donc voilà. Ce que j'en ai à dire.
Et j'ajoute quand même, point important, mille excuses, c'est Haywire qui vient de nous le rappeler. La main carte commence à 22h. C'est pas beau, ça, quand même. C'est formidable. 22h, hors français.
Ah, donc ils sont restés à... Ah, bien.
Oui, ils sont restés à... Exactement, mon cher Rust. Donc, on poursuit avec donc Alex Moreno, qui a peut-être, ou pas, l'avenir nous le dira, envoyé Donald Cowboy Cerrone à la retraite, qui affronte David Zawada. Là aussi, un combat qui a été changé au fil des mois, puisqu'à l'origine, il devait affronter Sergei Kondosko. Alors, Polydomso, Alex Moreno va-t-il confirmer après sa coming out party d'il y a quelques mois?
Je pense que oui. Genre, j'aime bien ce que fait David Zawada, hein. C'est pareil, c'est un acteur solide de la catégorie. Après, je pense que clairement, c'est là pour le coup, encore une fois, David Zawada, il a déjà perdu plusieurs fois au sein de l'organisation. Je pense que pareil, là, en termes de prétention et de jusqu'où il peut aller, on a à peu près vu, très rapidement, on arrive à identifier, tu vois, quand un combattant est dans l'organisation depuis quelques combats, jusqu'où il peut aller, et sauf s'il se réinvente ou s'il y a un appel d'air parce qu'il y a, je sais pas, un champion qui part, plusieurs personnes qui changent de catégorie. C'est très rare, en fait, que, il y en a qui arrivent à le faire, hein. On se souvient, par exemple, de Rafael dos Anjos qui s'est réinventé comme ça, alors qu'il avait un peu ce statut-là de mec, qui était bon, mais qui avait pas ce qu'il fallait, tu vois, pour percer le top 10, et qui bon a fait avec Kings MMA, Rafael Cordeiro, qui s'est réinventé, qui est devenu champion. Donc c'est toujours possible, hein. Mais je pense quand même que Zawada, là, pour le coup, c'est plus un gars qui a tu vois, qui assure justement le côté filler, tu vois, des cartes. Et il a un bon niveau, donc on peut le mettre en main card et ce sera pas honteux. Là, il va bien tester, je pense, Alex Morono, mais je pense quand même qu'Alex Morono est favori. Il me semble, hein, en tout cas.
Et on avance avec le combat féminin, Ariane Lipski.
Et attends, ça fait deux combats que Rust ne dit rien. Moi, je m'insurge.
Ça aurait été très bien que ça reste tel quel, puisque je n'ai pas grand-chose de plus à dire.
Exactement. Rust se réserve pour le co-main et le main event. On l'a ramené, les gars. Faut le préserver, Rust, parce qu'ensuite, ça va être la guerre. Si, Rust aura quelques mots à dire sur le co-main. Là, on a quand même un combat féminin. Donc, Ariane Lipski, que vous avez sans doute découvert lors de l'UFC Fight Island, avec une soumission complètement folle, depuis un peu plus compliqué pour elle, avec deux défaites consécutives par TKO, face à elle, quelqu'un que je ne connais pas du tout, Mandy Baum, mais qui a un bilan de 7-0 en MMA.
Oui, qui fait son premier combat à l'UFC, il me semble, peut-être je me trompe, peut-être on en a fait un avant. Alors là, pour le coup, je pense que chez les femmes, le niveau vraiment varie énormément. Et faut pas se. Alors j'aurais tendance à, pour le coup, parce que bon, je vais pas vous cacher.
C'est effectivement son premier combat à l'UFC.
Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les combats de cette personne, justement, dont j'ai oublié le nom, là, tu vois, pour vous dire.
Mandy Baum.
Mandy Baum. Et Ariane Lipski, oui, mais point trop n'en faut, quoi. C'est vraiment à petite dose, c'est pas vraiment trop ce que j'apprécie le plus, en fait. Donc, j'aurais tendance à. Non, mais bon, voilà, quoi, il y a un moment donné, il faut choisir ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde aussi et non mais je dis ça, c'est juste que on peut pas tout voir non plus et je pense quand même que là clairement faut pas se laisser abuser par les deux défaites en fait de Ariane Lipski. Je pense que je vais la favoriser elle quand même sur ouais. Par rapport à Mandy Baum, mais après je peux être surpris parce que pour le coup là je vous le dis en transparence encore une fois, c'est la quatrième fois que j'utilise ce mot là sur ce podcast, il va falloir que je me calme, mais je la connais pas en fait.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Donc là, je me réfère juste à leur palmarès respectif et je pense que au vu du palmarès respectif de ces deux femmes, je vais plutôt aller du côté de Lipski.
Bon, bah voilà, avançons en toute transparence. Hein, je ne savais pas que Polydome soit utilisé plusieurs fois ce mois-là. Alors, on avance avec le co-main event Thomas Spinal contre Sergei Spivak. Ne vous fiez pas au bilan des deux hommes. Certes, Thomas Spinal est à 10-2, mais c'est un immense espoir de la catégorie heavyweight face à Sergei Spivak qui est à 13-2, qui n'a pas affronté le même type d'adversaire et surtout qui officie là en tant que remplaçant en short notice, puisqu'à la base on devait voir Sergei Pavlovitch qui devait aussi affronter Cyril Gagne il y a de ça quelques mois, malheureusement il a dû être opéré donc on n'a pas vu ce combat là. Sergei Pavlovitch qui avait démarré à l'UFC avec un choc face à Lister Overeem et qui depuis, bah, mine de rien, hein, s'est fait un petit nom.
Deux victoires par KO il me semble, ouais. Contre Marcel Gol mais je sais plus qui d'autre. Oui, c'est ça. Alors franchement, c'est pas cool pour Thomas Spinal de ce changement. Enfin, en termes de match-up, ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Sergei Pavlovitch, c'est quand même plus un striker. C'est un mec un peu spécial qui a une allonge de dingue. Je crois qu'il a 84 inches d'allonge. Enfin, c'est délirant. C'est un peu à la Sonny Liston, qui a des gros points, qui a un jeu qui est plutôt simple, il fait pas beaucoup de trucs de fou, mais en revanche faut pas trop le laisser s'exprimer parce qu'il a du pouvoir de KO, il a des bonnes combinaisons de mains, il a une bonne rapidité de main. C'est juste contre Alistair Overeem, je pense qu'il y avait eu un décalage de niveau énorme là pour le coup. Bah, enfin, ouais. Rendez-vous compte, vous êtes accueilli à l'UFC par Alistair Overeem, quoi, c'est pas cool. Et en plus de ça, sur le premier round de mémoire, je pense qu'il touchait un peu Alistair Overeem. Bon, et après c'était au sol où clairement il y avait un 2, 3, 4 niveaux d'écart entre les deux. Ça s'est vu très vite en fait, qu'il était vraiment hors de sa ligue, Pavlovitch. Mais bon, après, bon, il s'est rattrapé et franchement, quand il met la marche avant et qu'on subit son anglaise, ça fait pas plaisir. Hein. Pour le coup, ça fait pas plaisir. Et moi, j'avais hâte de voir ce combat parce que pour le coup, Thomas Spinal, c'est un très bon boxeur pour des lourds et pour en MMA. Toute proportion gardée, je suis pas en train de vous dire qu'il pourrait battre les Tyson Fury de ce monde, hein, mais c'est juste que par rapport à l'UFC, en chez les lourds, c'est quand même, c'est ce qui se fait de mieux. En fait, il a une très bonne rapidité de poing, il a des bons mouvements de tête, il a un bon footwork. C'est, on n'en demande pas beaucoup plus en fait pour les heavyweight. Et je pense que peut-être que le pouvoir de KO et la puissance brute était vraiment du côté de Pavlovitch, mais sur ce qui était en termes de richesse et de palette technique, on était plus du côté d'Aspinall. Donc c'était vraiment intéressant parce qu'on aime beaucoup ce genre d'affrontement, tu vois, où t'as un mec qui peut te tuer en un coup et un autre qui a à peu près les outils, tu vois, pour désamorcer justement ça. C'est intéressant, c'est un peu Rétière, c'est Couture, c'est cool comme affrontement en fait. Là, on le met face à un grappleur, quoi. Sergei Spivak, c'est un mec qui cherche à t'amener au sol, qui cherche à te soumettre. C'est pas du tout la même menace. Debout, il est moins dangereux que, il est quand même moins dangereux que Pavlovitch. Alors après, on est chez les lourds, donc il peut toujours se passer un accident, mais c'est pas, il est pas réputé pour cogner. Il est réputé en fait pour sa capacité de soumission, pour la lecture opportuniste qu'il a parfois du jeu au sol de ses adversaires. Dès qu'il y a un trou qui se présente, bah il s'y engouffre avec joie, le Sergei Spivak. Donc bon, ça va être difficile, je pense. Là, c'est une épreuve qui est compliquée pour Aspinall de refaire toute sa stratégie, parce que je pense que quand on prépare un combat face à Pavlovitch, on prépare vraiment spécifiquement, bon là, va falloir vraiment que tu fasses gaffe à son bras arrière, à son uppercut du bras avant, va falloir que tu fasses tout ça en termes de mouvement, de footwork et de travail du bras avant pour désamorcer ça. Là, on est face à quelqu'un. En plus, ce qui est terrible, c'est que peut-être que Tom Aspinall avait commencé à travailler des amenées au sol par rapport à Pavlovitch, parce que c'était une des failles du jeu de Pavlovitch. Là, il se retrouve face à un mec où c'est son point fort. Donc ça va être compliqué pour lui d'adapter son jeu, et c'est là où on va voir s'il a l'écrin des champions, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi ça, être champion, c'est prendre un mec comme ça, que t'es pas censé prendre, qui représente tout un type de menaces différentes, et t'y adapter avec brio. Donc c'est intéressant pour ça. Je pense qu'en si en termes de s'il y avait eu un camp particulier pour se préparer l'un l'autre, j'aurais favorisé Aspinall très largement par rapport à Spivak, même si Spivak est dangereux, hein, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il a plus de talent, et depuis qu'il s'est repris en termes de conditions physiques et qu'il prend vraiment le truc au sérieux, il est vraiment très intéressant à regarder Aspinall. Là, en revanche, dans les circonstances actuelles, en termes de remplacement et en fait en termes aussi qu'il avait peut-être préparé tout un game plan par rapport à Pavlovitch, ça va être beaucoup plus dur pour lui de s'adapter. Donc là, c'est un peu plus tendu. Je pense que ça va être compliqué. Je favorise toujours Aspinall, mais je l'aurais favorisé peut-être à 75-25 avec préparation. Là, je vais le favoriser à 55-45 face à Spivak dans ces circonstances-là.
Parole à Russ, parole à la défense.
Ben ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que Sergei Spivak, il a 26 ans. Enfin, je pense qu'il doit faire partie des poids lourds les plus jeunes qu'il y a sur le roster. Donc, en fait, on pourrait se dire que s'il est là aussitôt, tu sais, ça fait un peu penser à Stefan Struve. C'est-à-dire que tu te dis, putain, le mec, t'as l'impression qu'il est éternellement jeune. Il a déjà plusieurs combats à l'UFC en étant vraiment, vraiment encore assez green. Et pourtant, il a déjà affronté, bah, donc, son dernier combat, le boa constrictor olinique, etc. Alors, je me souviens avoir vu le combat et n'avoir vraiment pas été impressionné par Sergei Spivak. Mais effectivement, comme il dit Paul Domso, en fait, il est chiant à combattre, en fait. Il est vraiment super, super retors. Et c'est vrai que, ben, j'ai envie personnellement de voir Tom Aspinall gagner, parce que juste, je pense qu'il a un bien meilleur potentiel. Pareil, effectivement, il est très jeune aussi, Tom Aspinall, pour un poids lourd, 29 ans. Enfin, le trio, en fait, Pavlovitch, Aspinall et Sergei Spivak, c'est vraiment des gars qui sont très très jeunes pour la catégorie. Donc vraiment, qui ont un futur qui est potentiellement intéressant, et particulièrement Pavlovitch et Aspinall. C'est peut-être une bénédiction finalement, parce que du coup, ils ne s'affronteront pas immédiatement, ce qui aurait peut-être pu tuer dans l'œuf l'un des deux prospects. Mais c'est vrai que, ben ouais, pour Aspinall, debout, je trouve que il y a vraiment parfois il y a une espèce de flash de brillance qui sont magnifiques. Enfin, je crois que c'était du coup dans son premier combat à l'UFC contre du coup Jake Collier. Je crois que c'était dans ce combat-là où il met un espèce d'enchaînement qui est, je crois que c'était un genou avec un direct derrière même bras. Enfin, je sais que c'était un enchaînement pas orthodoxe et pas académique, mais vraiment j'étais impressionné de ce degré de technique. Alors évidemment, il y a de la répétition, mais il y a aussi probablement un petit peu d'opportunisme, mais mêlé à une technique vraiment très raffiné, qui fait que j'étais vraiment impressionné par Tom Aspinall, quoi. Et puis sa dernière apparition contre Arlovski, bah Arlovski commençait à lui donner quelques petites
réponses
en anglaise, mais est magnifique, boom, power double des enfers, et il l'a soumis en 2 secondes, quoi. Enfin, donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de ressources, qui est extrêmement talentueux, qui fait du bien à la catégorie poids lourd. Et donc, enfin, j'ai juste envie qu'il gagne contre Spivak, puisque Spivak, je lui donne pas forcément, je lui prédis pas un grand avenir. Il a pas forcément grand chose pour lui, même physiquement, il est pas athlétique au point où tu te dis Johnny Walker, il peut faire des trucs de dingue, même s'il a pas une technique de ouf. Donc, J'ai juste envie effectivement aussi que Thomas Aspinall triomphe, même si ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pense à première vue.
Bien, avançons avec le main event d'Aaron Till contre Bronson. Puisqu'on parle de personnes qui n'ont pas forcément un grand avenir, commençons par Aaron Till. Donc Aaron Till, là, qui
alors
sort.
Celle-là,
elle va se payer dans le sang, celle-là.
Elle va se payer dans le sang, exactement.
Aaron Till qui sort d'une défaite face à Robert Whittaker. Donc ça fait un certain temps qu'il n'a pas combattu. Face à lui, Derek Bronson, qui officiait autrefois en tant que gatekeeper, et là qui s'est véritablement trouvé Derek Bronson alors qu'il est dans la dernière partie de sa carrière, là qui est sur deux belles victoires face à Edmund Shabazian, puis face à Kevin Holland. Alors, que va-t-il se passer samedi prochain d'un côté pour
Mais il est même sur 4, oui, je crois, d'affilée.
Je veux dire plutôt face à de véritables noms, parce qu'il y a eu aussi Anna Inish, bien évidemment, oui. Donc 4 victoires consécutives pour Derek Bronson. D'un côté, Poidomso voit plutôt une victoire de l'Américain, de l'autre, Rust voit une victoire de Darren Till.
Oui, ben, en fait, c'est... Alors déjà, je vais en profiter pour dire ce que j'ai dit en off, mais je vais le redire parce que c'est Darren Till. Et du coup, tu seras le seul à l'entendre, Polydomso. Mais c'est le fait que...
Visiblement, ça saoule Guillaume. Donc,
ouais. Visiblement, ça ne l'intéresse absolument pas. Ouais. Mais c'est... Oh, bon, ouais. Mais c'est le fait que... déjà, oui, c'est vrai, il a perdu son dernier combat contre Forrest... Contre Robert Whittaker. Putain, vraiment...
Contre le dernier roi d'Écosse.
Il a perdu son dernier combat, effectivement, contre Whittaker. Mais... déjà, il a pas démérité. C'est-à-dire que pour moi, c'est un combat que Robert Whittaker a clairement gagné, mais c'était vraiment serré. Enfin, je trouvais que c'était serré, et techniquement, Robert Whittaker l'a dit lui-même, c'était un des combats les plus techniques et stressants qu'il ait jamais fait de sa vie. Honnêtement, ce genre d'accolade de la part de Robert Whittaker, enfin, pour moi, c'est quand même une sacrée gommette verte dans le cahier, quoi. Et ça rajoutait au fait que, son autre combat en middleweight, c'était donc contre Gastelum. Et si je me souviens bien, c'était une split décision, mais qui, en revanche, celle-là, à mon sens, était plutôt claire pour Darren Till. Et si je me souviens bien aussi, hein, tu me diras si t'es d'accord, Plydomso, mais pour Gastelum, pour moi, il avait clairement l'avantage technique. Il avait vraiment trouvé les bonnes solutions pour nullifier le jeu de Kelvin, et il le dominait. Et contre Robert Whittaker, il a eu aussi ses moments de brillance, même si, au fin des fins, Robert Whittaker avait pris l'avantage. Donc en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez, et tu vas me dire ce que t'en penses, Podiumso, mais pour moi, Derek Bronson, c'est un gars qui a toujours eu clairement du mal contre les strikers d'élite. Même lorsqu'il l'emporte, bon... Il y a cette exception, il y en a forcément peut-être d'autres aussi, mais Lyoto Machida qui était lui aussi un southpaw comme Darren Till et qui
en fin
aussi
de vie,
un style.
Hein.
Ouais, en fin de vie, c'est vrai, ça commençait à être un peu dur. Mais n'empêche que Derek Bronson avait réussi à surprendre et mettre KO Lyoto Machida. Ouais. Mais généralement, quand même, dès qu'il y a, même contre Kevin Holland, il y a eu des moments où clairement il a eu super chaud Derek Bronson, contre Adesanya, contre Jacare Souza, il s'est fait mettre KO, contre Romero, il s'est fait mettre KO. Enfin, quand quelqu'un a soit la puissance et la rapidité, soit un répertoire technique qui le dépasse complètement, généralement contre Bronson, c'est quand même, ça va facilement du côté du très bon striker si celui-ci est capable d'arrêter les takedowns. Contre Edmund Shabazian, ça n'a pas été le cas. Contre Kevin Holland, ça n'a pas été le cas. Donc, il a été mis en danger contre Kevin Holland, mais comme il a réussi à le mettre au sol, il a réussi à le dominer pendant 5 rounds sans discussion. Contre Edmund Shabazian, c'était très bien joué et magnifique. Mais je trouve que Edmund Shabazian, je sais pas, ce combat, je l'ai pas trouvé impressionnant, et j'ai trouvé qu'il manquait de puissance pour mettre en respect Derek Bronson. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je vois Darren Till plutôt gagnant, parce que je me dis, il a quand même une grosse défense de takedown. Il s'est fait surprendre, oui, par Whittaker sur des laser takedown, mais Whittaker, c'est Whittaker encore une fois. Et debout, je vois le répertoire technique, la puissance et la vitesse de Darren Till mettre en danger Derek Bronson. Voilà.
Alors, Polydomso.
What you think, Polly?
Non, mais attends, j'accorde quelque chose à Russ. C'est vrai que Darren Till, on pourrait se laisser abuser sur son bilan, mais il ne perd que contre les meilleurs, en réalité. Mm-hmm. Parce qu'il a perdu contre Whittaker, il a perdu contre Masvidal. Et il a perdu contre Woodley. Bon, cette défaite vieillit mal actuellement, mais bon, c'était Woodley qui en avait encore quelque chose à faire, quoi. Enfin, vraiment, qui clairement, parce que, enfin, faut pas oublier que Woodley, son règne en champion de welterweight, c'est un beau règne. C'est terrible, parce que là, on voit les 4 combats qu'il perd d'affilée, plus là, ce qui s'est passé avec Jack Paul. Mais faut pas oublier, enfin, faut pas que ça retire ce qu'a été Woodley, ce qu'a représenté Woodley, et quand il était encore au taquet, ça représentait un casse-tête vraiment compliqué à résoudre, en fait, Woodley. Faut pas nier ça. Donc, il ne s'est incliné que face aux meilleurs ou face aux tout bons. Je suis d'accord avec toi sur le fait que sa performance contre Gastelum était très belle. C'est un exemple de punch and clutch. Ce qu'on explique comme stratégie, c'est tu frappes et au lieu d'attendre le retour, t'accroches et tu nullifies le retour. Parce qu'on avait vraiment peur, comme il avait montré que il avait pas une boxe très conventionnelle, Darren Till. Alors ça marche la plupart du temps, mais contre quelqu'un qui a une bonne rapidité de main et qui va repérer les patterns, il peut se faire surprendre. C'était ce qui s'était passé face à Masvidal, qui avait repéré que par exemple quand il reculait tête haute et en ligne droite. Et c'était comme ça qu'il l'avait chopé. Il avait chopé le timing à un moment donné. Il l'avait vraiment sanctionné comme ça. Et on avait peur. Moi, c'est pour ça que j'avais donné Gastelum gagnant à l'époque. Parce que Gastelum, il avait des mains rapides. Et on s'était dit, oh putain, le match-up, là, c'est sévère, tu vois, comme combat en poids moyen. Et il avait tout de suite corrigé ça. Et il n'avait pas refait les mêmes erreurs contre Masvidal. Donc, c'est un combattant qui a énormément de ressources, qui a beaucoup de talent. Moi, je vais plus pencher du côté de Brunson. C'est pas tellement en termes de talent ni en termes de préparation. C'est plus en termes de match-up. Et je pense que le Brunson qui est plus serein, qui est plus tranquille, qui se jette moins sur ses takedowns, qui cherche moins peut-être à précipiter les choses parce qu'il était anxieux, parce que ses défaites les plus catastrophiques à Brunson, c'est contre Adesanya et contre Whittaker, et c'est des défaites qui ont à peu près la même gueule. C'est un Brunson qui, dès le début, dès que la cloche sonne, va se jeter, mais comme un malade, quoi. Il a le buste et la tête en avant par rapport à ses pieds. Il n'a pas de protection. Et c'est comme ça, en fait, qu'il se fait sanctionner par des mecs. Bon, bah, tu montres pas ta tête deux fois à Adesanya, quoi. C'est le gars, il a un laser. Il va te sanctionner, quoi. Et là, depuis qu'il a pris le temps, il avait besoin, justement, d'enchaîner les victoires. Si tu veux, on l'a mis face à des adversaires qui étaient d'un calibre moindre. Il a battu Théodorou, il a battu Enish, ça l'a mis en confiance. Il a battu Chabazian, il a gagné encore plus de confiance. Il a battu Hollande, alors là, fou, la confiance est meilleure. Et ça se sent, tu vois, qu'il se précipite plus, quoi. Et là, il installe son striking. Alors, certes, c'est pas ouf ce qu'il fait en striking, mais ça lui permet dans un second temps d'amorcer sa lutte. Et là, en fait, on se rend compte que, il a une très bonne lutte. Il a un très bon contrôle et il frappe fort. Donc, il n'en faut pas beaucoup plus. Et c'est un calibre d'adversaire qui est difficile à rencontrer. Et je me demande si Darren Till est capable de faire face à ça, en fait. Face à ce type d'adversaire en middleweight. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à privilégier un peu Brunson. Après, si Darren Till met KO Brunson, ça me surprendrait pas non plus. Tu vois, enfin, on rigole, on taquine un peu Russ parce que c'est marrant de dire que Darren Till va perdre, quoi. Mais c'est... Et pour moi, ce serait pas étonnant. C'est un combat qui est très serré. C'est un combat qui est très intéressant pour l'avenir de la catégorie. Je pense que les deux peuvent offrir quelque chose de très beau s'ils gagnent ce soir-là. Autant Derek Brunson que Darren Till. Peut-être c'est mieux, c'est préférable si c'est Darren Till qui gagne. Ça, j'accorderais ça aussi également à Rust, pour le coup. Mais je vais aller Brunson par décision, aller par split décision. Voilà.
Oh là là. Et 33% de takedown accuracy. Donc de réussite au takedown pour Brunson en termes de chiffres, c'est ce que Haywire nous dit.
Oui, mais bon, c'est parce qu'il y a des combats où il a fait n'importe quoi, en fait. Je pense qu'il défonce sa moyenne. Tu prends le combat contre Whittaker, il tente je sais pas combien de takedown, il se jette en avant, c'est pas.
Ah,
c'est
des
contre Adesanya, ouais.
Ouais, contre Adesanya aussi. Alors que sur ses derniers combats contre Chabazian, par exemple, j'ai trouvé que justement les succès en takedown étaient meilleurs. Enfin, de mémoire, j'ai pas la stat en tête, mais je pense que c'est pour ça.
Alors messieurs. Mmh.
Ben, du coup, tu vois, split décision pour Derek.
Ouais.
Ben moi, je pense que je vais rester sur Darren Till et je vais mettre un KO. Je vais mettre un KO au deuxième round. Et parce que même si on ne peut qu'être d'accord, c'est factuel avec tout ce que vient de dire Paydomso. Je pense néanmoins que il est quand même plus solide en takedown défense et plus difficile à surprendre Darren Till que même s'il vient de welterweight paradoxalement que Chabazian et que Kevin Holland, et du coup je le vois difficilement être surpris, que ce soit en clinch ou que ce soit en takedown au milieu de la cage, par Derek Brunson. Et même s'il est effectivement beaucoup plus précautionneux debout, ben ça l'aidera peut-être en défense à peut-être moins rapidement prendre l'eau, mais je vois mal au niveau des offensives quelque chose qu'il a apporté sur ses derniers combats qui me dit clairement il va pouvoir faire jeu égal, je pense. Et encore
82% de takedown défense pour Darren Till Rust en carrière.
Mm-hmm. Donc voilà, de toute façon c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut absolument se tromper tout ce temps qu'on est, mais je vais mettre un KO round 2 pour Darren Till.
Ok, on peut pas tous se tromper, Terrus, t'as pas le droit de te tromper. Alors Et pour ma part, je mets un KO de Darren Till
Bien sûr.
Ou deuxième round. Je mets un KO de Darren Till au deuxième round. Voilà, donc n'hésitez pas aussi.
Ça,
vous.
Sage décision.
Oui. il vaut mieux pour toi. Il vaut mieux pour toi. En tout cas, donc réponse samedi soir. En plus, là, pour une fois, horaire européen. Donc ça fait vraiment plaisir.
Ah ouais.
Voilà, donc pour cette UFC, UFC Fight Night délocalisée, donc à Las Vegas, dans le Nevada. Ouais, sinon, bah, la plupart des gens, de toute façon, avaient. Il y avait pas mal de questions sur Jack Paul et Tyron Woodley. On en a parlé, les gars, ce matin. Mais sinon, là, pour Badr Hari et donc pour cette UFC, je pense qu'on est complet sur la question. Voilà, messieurs. Bah, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet pea.
My sweet potato.
Moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. Brunson, Till, Polydomso, Rust, que le meilleur gagne. Allez, à très très vite.
We out. Bon, bah, pas.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.